autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour faire l'éloge de la sieste. Et oui, la sieste, qu'on sait réparatrice, mais qu'on a toujours tendance à considérer comme un signe de paresse. Or, ce que démontrent les plus récentes études en neurosciences, ce sont les formidables vertus thérapeutiques des petits sommes et des grandes siestes. À la portée de tous, rarement prescrits, ils se révèlent pourtant comme des remèdes indispensables à notre bonne santé physique et psychique, de plus en plus malmené par un manque chronique de sommeil, une dette de sommeil en constante augmentation dans nos sociétés. Sauvé par la sieste, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité, le docteur en neurosciences Brice Faro, spécialiste des effets de la privation de sommeil, qui nous avait fait partager ses recherches et ses découvertes en mai dernier. Nous vous proposons de réécouter cet entretien très inspirant et pas soporifique du tout autour de la question « Pourquoi faire la sieste ?» Bienvenue sur notre canapé. Bonjour Brice Faro.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous après l'heure de la sieste. Vous êtes docteur en neurosciences, spécialiste des effets de la privation de sommeil et de la récupération. Vous menez aujourd'hui vos recherches au Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel Dieu à Paris, dans l'équipe VIFASOM, vigilance, fatigue, sommeil et santé publique à l'Université Paris-Descartes, auteur de nombreuses études et de nombreuses découvertes sur les bienfaits de la sieste. Vous venez de publier chez Actes Sud, Sauvé par la sieste, sous-titré « Petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil ». Car votre constat, Brice Faro, c'est d'abord que nous sommes tous plus ou moins en manque de sommeil, en dette de sommeil. C'est un des, sinon le mal du siècle.
Oui, alors comme vous le suggérez en entrée de l'émission, nos rythmes de sommeil sont de plus en plus malmenés par vous parlez de l'hyperconnexion, les rythmes de travail, les rythmes de transport. Et donc le sommeil est souvent vu comme finalement sur une journée de 24 heures, comme une variable d'ajustement. Et ça, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste une dernière enquête auquel j'ai participé, sur près de 12 000 personnes représentatives de la population française, on avait quand même 25% des Français qui étaient en dette de sommeil sévère. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'ils dormaient 90 minutes de moins en moyenne pendant la semaine, de moins qu'il aurait été nécessaire pour fonctionner correctement. Donc pour vous donner une idée, lorsqu'on perd en moyenne 1h30 chaque jour, à la fin de la semaine, j'aurais perdu une nuit de sommeil, à la fin de l'année, j'aurais perdu plus d'un mois et demi de sommeil. Et ceci n'est pas négligeable lorsqu'on va peut-être décrire plus tard tous les effets sur la santé d'un manque chronique de sommeil.
Oui, on va les décrire, hein, ces effets, parce que on sait bien que dormir, ça fait du bien, mais ça va bien au-delà de ça. Et du coup, moi, je peux dire que votre livre fait du bien, il déculpabilise les dormeurs que nous sommes. Mais comment en êtes-vous arrivé, justement, à vanter, on va y venir aussi, les mérites de la sieste ? Ce sont vos recherches, précisément, sur les effets du manque de sommeil, les effets destructifs, néfastes du manque de sommeil qui vous ont amené à promouvoir la sieste. On y viendra aussi comme un véritable médicament.
Oui, alors absolument. J'ai des publications, moi évidemment, les collègues partout autour du monde ont montré que, en particulier lorsqu'on dort moins de 6 heures par 24 heures en moyenne, tout un éventail de pathologies apparaissent, que ce soit cardiovasculaire, plus d'obésité, plus de diabète de type 2. Mais ça, c'est l'effet à long terme, mais l'effet évident d'un manque de sommeil, je n'ai pas assez dormi une nuit, j'ai dormi 5 heures, j'ai besoin de 7-8 heures, je vais un effet sur l'humeur et sur les émotions, je vais être de mauvaise humeur. Évidemment, le risque accidentel, problème de somnolence, hein, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit, puis on est moins performant, etc. Mais dans ce contexte où cette part de personnes qui dorment moins de 6 heures par 24 heures, dans toutes les enquêtes, année après année faites en France, elle est de l'ordre d'un tiers des adultes qui dorment moins de 6 heures pendant la semaine. Donc comment on ne peut pas changer ? L'idéal évidemment serait de dormir le nombre d'heures nécessaires. Ce sont des facteurs individuels, ça dépend de chaque personne, dans sa fenêtre idéale de sommeil. Mais malheureusement, pour nombreuses contraintes familiales, socio-économiques, vous comprendrez que ce n'est pas toujours possible. Donc, ce que je voulais proposer à travers ce livre, pour répondre à cette souffrance du manque de sommeil, j'appelle ça un sommeil biphasique. Biphasique dans le sens où, malheureusement, j'ai trop peu dormi la nuit d'avant, pour toute raison. Donc je vais, en renfort de cette nuit écourtée, je vais compenser par une sieste de récupération et je vais la penser, c'est-à-dire c'est pas un phénomène passif où je suis tellement fatigué que je m'endors. Je vais penser cette sieste et on verra les différents types de siestes auxquels on peut avoir recours pour contrer cette dette de sommeil et essayer malgré tout sur 24 heures avoir un nombre d'heures qui dépasse 6 heures idéalement parce que malheureusement les vrais petits dormeurs, donc ceux qui fonctionnent tout à fait parfaitement, avec moins de 6 heures par 24 heures de sommeil, sont de l'ordre de 7-8% de la population.
Donc c'est très rare.
C'est très rare. Donc tout le reste des gens qui sont du tiers de Français qui est moins de 6 heures sont en restriction de sommeil.
Autour de la question pourquoi faire la sieste consciemment donc, et comment chaque petit somme est une victoire sur notre dette de sommeil, je propose Brice Farot de commencer par fermer les yeux. À l'écoute du mix, je veux dormir, d'Hugo Violas.
T'es sérieux là? Demain, j'ai un rendez-vous important à 7h, faut absolument que je dorme.
Eh ben, tu rentres pas!
Je te déteste. T'es vraiment la personne la plus nulle du monde.
J'espère bien. Plus tu t'énerves, moins tu pourras entrer.
Je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, je me sens vanné. Comme si je m'étais fait téter les yeux par la racine.
Il y a un type qui a dit la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence.
Ah bon? Il a dit ça pour qui?
Pour les mecs fatigués. Moi, si t'es vanné, il y a toujours un moyen. T'as qu'à dormir plus vite.
Dormir plus vite.
Eh ben ouais.
Oh, il y a sûrement une combine.
Il faut dormir, c'est bon de dormir. Il y a une enquête qui le dit, on passe un tiers de sa vie dans son lit. Moi, je passais carrément 4 tiers de ma vie dans mon lit. Maintenant, j'ai quitté mon lit, je fais plus des micro-siestes. Voilà. Là, par exemple, je vous en faire une, voilà. Voilà, oui. Ça va très vite, hein?
Non, mais je sais, les études sur la santé, c'est le truc le plus prévisible au monde, en fait. C'est les comédies romantiques de la science, tu vois. Tu lis nouvelle étude sur l'impact du sommeil, tu sais que les mecs, ils vont pas te dire, eh ben, on a bien réfléchi. Une bonne insomnie, tu vois, vraiment. Ça, c'est 2 heures par nuit, c'est assez l'idéal pour être frais comme un pamplemousse. Eh ben, c'est de dormir bien bourré devant Mad Max avec des nachos.
Chez les jeunes élèves, les classes d'après-midi, somnolentes ou dissipées, se sont toujours révélées moins productrices que celles du matin. À l'école primaire de Vanves, qui tient en France le rôle d'école pilote, une expérience est en cours à l'instigation du docteur Max Forestier. La sieste a été promue au rang de discipline pédagogique.
Il y a donc eu des tentatives pour promouvoir la sieste. On peut aussi essayer de dormir plus vite. Drôle de possibilité. Brice Farot, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, alors vous venez de dire dormir plus vite. Alors ça, je grince un peu des dents parce que dormir plus vite, on est dans l'idée peut-être d'optimiser son sommeil, donc de contourner ses rythmes naturels veille-sommeil, alors que le sommeil, c'est quelque chose à respecter, à protéger, pas nécessairement à réinventer. Donc dormir plus vite, c'est compliqué de dormir plus vite. Ouais.
Alors pourquoi justement vous dites que le sommeil est à protéger? On va revenir aussi sur les fonctions absolument essentielles du sommeil, mais pourquoi ce sommeil de sieste est-il si intéressant? Parce que vous parliez d'une série d'heures de sommeil, que sur 24 heures on puisse récupérer, mais c'est quoi la sieste au fond? C'est une manière de récupérer plus vite? C'est quel sommeil?
Alors justement pour aller avec la notion de vitesse. Donc la vitesse, c'est le temps. Et je ne pense pas du tout que faire une sieste, ce soit une perte de temps. Bien au contraire, faire une sieste, c'est gagner du temps. Parce que lorsqu'on est dans un contexte de manque de sommeil. Donc dans ce contexte-là, on va être beaucoup moins efficace, moins concentré, moins attentif. On va beaucoup moins retenir les choses qu'on a apprises au préalablement lorsqu'on est en manque de sommeil. Alors que cette sieste peut remédier à tout cela et donc vous permettre d'être plus rapide et gagner en vitalité et donc gagner au final du temps. Et il est quand même tout de même paradoxal. Alors, il y a quelque chose comme quoi elle est mal vue. Alors, peut-être c'est le mot sieste qui pose problème. Les anglo-saxons l'appellent power nap. Toujours, c'est donc une notion
donc
de puissance.
Un petit somme de puissance.
Alors, on pourrait le traduire par sieste énergisante.
Là, tout de suite, c'est mieux dans notre société
suite,
quand même de
mieux.
La performance.
Tout de suite, c'est mieux. C'est mieux vu, vendeur, cette sieste énergisante. Enfin, peu importe la manière dont on l'appelle. Alors, première chose, pourquoi on ne pourrait pas se l'autoriser? On s'autorise à dormir 7-8 heures. C'est assez paradoxal de ne pas s'autoriser à dormir 20 minutes. Là, je propose des siestes d'une demi-heure maximum pour des situations assez habituelles de manque léger de sommeil. Lorsque l'on sait que physiologiquement, nous avons un creux tout à fait naturel, qui est gouverné par notre horloge biologique, qui est entre midi et 16 heures, plutôt vers midi pour les couches tôt, plutôt vers un peu plus tard pour les couches tard. Donc c'est un moment, si vous voulez, en début d'après-midi, c'est pas forcément lié au fait d'avoir mangé.
C'est pas forcément lié à ça.
Ça accentue, parce que la digestion nécessite de l'énergie. Donc on accentue ce creux de vigilance. Mais on est à un moment, début d'après-midi, où les Français se lèvent en moyenne entre 6 et 7 heures du matin. Donc on est à un moment où les systèmes d'éveil vont moins vous soutenir pour aller vers des fonctions éveillantes, si vous voulez. Première chose, et on a un moment où on est éveillé, je vous disais, les Français se lèvent 6 et 7 heures du matin, ça fait 7-8 heures qu'on est éveillé, donc la pression du sommeil commence à monter. On a une petite baisse de la température centrale, donc tout ça constitue un moment idéal pour faire une sieste, une petite demi-heure, une vingtaine de minutes, qui va vous permettre d'être efficace pour le reste de l'après-midi.
C'est mieux qu'un café.
Alors, ce n'est pas la même chose. Alors, si vous voulez, lorsqu'on est en manque de sommeil, la sieste va soigner le mal à sa source, alors que le café va soigner juste le symptôme. Un café va stimuler, on va booster les systèmes d'éveil, si vous voulez, mais on ne va pas récupérer. Donc, ce n'est pas la même chose. Par contre, on peut associer les deux, ça peut être intéressant.
Et oui, vous avez une proposition en ce sens. Alors, comment vous associez le café et la sieste, Brice Farot ?
Alors attention, premier petit bémol, ce dont je vais vous parler, c'est à condition de s'endormir rapidement dans une sieste en début d'après-midi. Un problème de la sieste, souvent les gens vous racontent que j'aime pas trop faire la sieste, parce que lorsque j'en sors, je suis un peu dans le gaz, je me sens pas très bien. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Petit focus physiologique, qu'est-ce que c'est l'inertie du sommeil ? En fait, c'est quelque chose d'indispensable, c'est un état tampon entre le sommeil et l'éveil. Donc ça permet aux fonctions essentiel, la respiration, fonction cardiaque, de remonter doucement lorsqu'on sort d'un sommeil pour aller vers l'éveil. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est dans la journée, on a besoin d'être opérationnel assez vite lorsqu'on sort de sieste. Donc, comment éviter cette inertie du sommeil ? Une première chose, ne pas faire une sieste trop longue avec trop de sommeil lent profond, parce qu'elle est fonction du sommeil lent profond et dépend du sommeil lent profond. Mais je reviens au café. Donc, si on a un peu une inertie du sommeil, la caféine met une vingtaine de minutes à agir. Au bout de 5 minutes, on la retrouve dans le sang, elle traverse la barrière digestive, et au bout d'une vingtaine de minutes, elle va exercer ses effets psychostimulants dans le cerveau, en se fixant sur les récepteurs de l'adénosine, peu importe. Donc si je fais une sieste et je me réveille 20-25 minutes plus tard, au moment où je vais me réveiller, la caféine va commencer à exercer ses effets. Donc ça peut être bénéfique pour lever cette inertie de sommeil.
Donc boire un café juste avant de faire une courte sieste, si on s'endort vite
Si on s'endort vite et que la sieste sera d'une vingtaine de minutes, on peut toujours évidemment prendre un café en sortant de la sieste. Alors petit message de santé publique, la demi-vie de la caféine est de 4 à 6 heures. Donc il y a des gens, on est plus ou moins sensible à l'effet de la caféine, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je prends un café à 8 heures le matin, j'ai encore la moitié de la concentration de la caféine à midi 13 heures dans le sang. Donc si j'en reprends à 13 heures, à 17 heures, j'aurai un quart de celui du matin plus la moitié de celui du midi, etc. Donc c'est cumulatif. Donc attention, si problème d'endormissement le soir.
Attention, c'est pas simple de bien dormir, de l'importance pourtant du sommeil en général et de la sieste en particulier. Vous avez, on l'a dit aussi, Brice Farot, beaucoup travaillé sur la privation de sommeil, qui est devenu aussi un véritable sujet de société. À ce sujet précisément, je propose un premier témoignage. C'est celui d'un astrophysicien, il s'appelle Thierry Foglisio, il travaille au CEA, il était récemment notre invité.
J'ai fait des siestes, mais aussi j'ai fait l'expérience du manque de sommeil en voile, quand on est obligé de prendre des cars pour traverser l'Atlantique. Et c'est atroce, quand on commence à être dans un cycle de privation de sommeil, c'est vraiment, on comprend pourquoi c'est un moyen de torture. Alors moi j'ai trouvé que c'était une espèce de spirale assez difficile, sur un bateau en tout cas, quand on commence à manquer de sommeil et que les conditions sont difficiles au point qu'on n'arrive pas à dormir. J'ai pas vraiment de solution à part attendre que le beau temps revienne. Mais en tout cas, cette expérience-là m'a fait vraiment comprendre à quel point c'est un paramètre non négociable de mon équilibre psychique d'avoir un minimum de sommeil.
Thierry Foglisio a raison, Brice Farot, c'est un paramètre incontournable, c'est grave de manquer de sommeil.
Ah ben oui, là, dans une situation extrême, c'est là qu'on en prend toute la mesure, à quel point le sommeil est essentiel pour notre organisme et pour notre psychisme. Hein, et là, il parle de sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'il dort, il dort 15-20 minutes, puis il se réveille, puis il redort 15-20 minutes. Donc ça, on peut tenir de manière exceptionnelle, mais lorsqu'on suit justement ces navigateurs, ce qu'on fait au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu, lorsqu'ils reviennent à terre après une transat, ils mettent beaucoup de temps à retrouver une hygiène saine de sommeil, et pour eux c'est vraiment une expérience douloureuse. Donc les personnes qui seraient tentées d'utiliser ce qu'on appelle le sommeil polyphasique, c'est quand même globalement fortement à déconseiller.
Oui, c'est possible en cas d'urgence, mais c'est à déconseiller. Pourquoi c'est si important le sommeil, et pourquoi être en manque, c'est quoi? Ça dérègle notre machine interne et intérieure.
Alors le sommeil, c'est pendant le sommeil, c'est un... Il se passe énormément de choses. Alors, pour le cerveau, la mémoire, par exemple, tout ce qu'on a appris dans la journée, on va le consolider pendant le sommeil, et on va éliminer tout un nombre d'informations parasites qui ont besoin d'être supprimées, sinon notre disque dur serait saturé. Je reviens par exemple tout simplement à ce que peut apporter une sieste. Là, je vous parlais du sommeil de nuit, là on parle de la mémoire, il y a plein d'autres fonctions physiologiques dont on va sûrement parler. Par exemple, pour une sieste, déjà première chose, une sieste déjà de 6 minutes avec du sommeil lent léger permet de commencer à mieux retenir un texte ou une association, des associations de paires de mots. Bref, la mémoire déclarative. Ça, c'est une première chose. Donc, même des siestes courtes ont un effet sur l'apprentissage.
Et ça, vraiment, vous le voyez dans le cerveau. Enfin, c'est quelque chose qui se mesure.
Absolument. Donc, le support, c'est qu'il y a une consolidation. Il y a plusieurs théories. La théorie du replay, c'est-à-dire qu'on rejoue à blanc. Donc, l'hippocampe est le siège de la mémoire transitoire. Et pour que celle-ci soit consolidée, elle doit être consolidée et aller vers le cortex. Et pendant le sommeil, on voit rejouer à blanc un apprentissage entre l'hippocampe et le cortex.
Donc le sommeil est fondamental pour la mémoire, mais vous dites qu'il se passe toujours quelque chose finalement dans notre cerveau quand on dort, parce que s'il a aussi mauvaise réputation, le sommeil parfois ou la sieste souvent, c'est parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est du temps perdu, et on est tellement, on court tellement après le temps, notre temps et l'argent en même temps, donc c'est peut-être ça qui nous perturbe. Bon, vous dites qu'il se passe vraiment beaucoup de choses pendant qu'on dort.
Oui, oui, alors là, juste un petit point, oui, ça, dans la société, on a tendance à mettre en valeur l'activité pour l'activité, le fait de faire toujours quelque chose, toujours de bouger, de changer, et ça plus mal considéré au vu de la stabilité du sommeil. Et le sommeil, pendant le sommeil, il y a c'est ce qu'on imagine dans le livre, un ballet d'hormones, une pluie d'antioxydants. Vous n'avez pas idée de tout ce qui se passe. L'hormone de croissance, essentielle pour le développement de l'enfant, sa libération est étroitement liée à la quantité de sommeil lent profond. Donc, sans sommeil lent profond, pas de croissance possible. La mémoire, la régulation des émotions. Vous savez, lorsqu'on est en manque chronique de sommeil, apparaissent des troubles anxio-dépressifs. Le système immunitaire, la mémoire immunitaire, c'est-à-dire, je prends l'exemple tout simple d'un vaccin. On prend quelqu'un, on le vaccine. Selon qu'on le fasse dormir ou non la nuit qui va suivre, on aura dans le rappel, on a tous fait un rappel de vaccin, 3 mois, 6 mois plus tard, on mesure les anticorps, le nombre d'anticorps présents face à cet antigène de la pathologie qu'on avait injecté, si la personne a eu du sommeil lent profond la nuit d'avant, elle en aura 2 fois plus que la personne qui n'aura pas eu de sommeil lent profond, parce qu'il y a un milieu hormonal favorable, par exemple, à cette formation de mémoire immunitaire. On a tous remarqué que lorsqu'on est en manque de sommeil, on attrape plus facilement tout ce qui passe. Un rhume, ça a été démontré scientifiquement aussi.
Mais alors comment faire justement avec ce sommeil? Parce qu'on se rend bien compte à vous lire et à regarder toutes les études là-dessus que c'est fondamental, essentiel pour notre bonne santé physique et psychique. Mais on n'est pas tous égaux devant le sommeil. C'est la question que soulève tout de suite Cécile Estienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Il semble qu'il y ait des petits et des gros dormeurs, quand même, qu'on ne soit pas du tout égaux devant le sommeil. Moi, je voulais savoir si les petits dormeurs, ceux qui dorment vraiment 4-5 heures par nuit et s'en portent très bien, donc je jalouse beaucoup, est-ce qu'ils font tous la sieste ?
Votre réponse, Brice Farrow, est-ce que derrière les petits dormeurs se cachent des siesteurs ?
Alors, si on parle des, comme je vous disais tout à l'heure, des vrais petits dormeurs, qui sont, je vous le rappelle, 7-8% de la population.
Ouais, ils sont très peu. Hein.
Ils sont très peu, eux, a priori,
c'est
n'ont pas besoin de faire...
Hein, quand
c'est, voilà, c'est un épiphénomène. A priori, ils n'ont pas besoin de faire de sieste. Par contre, si on parle des autres personnes qui disent « je dors 4-5 heures », si au point de vue psychique et santé, ils fonctionnent super bien, probablement, ils font des siestes, absolument, pour compenser et pour arriver sur au moins 6 heures de sommeil par 24 heures.
Et encore plus avec l'âge, hein, on dort, enfin le sommeil, on n'est pas égaux devant le sommeil. Petit, on a besoin de beaucoup dormir, vous l'avez dit aussi, pour grandir, pour se construire. Avec l'âge, on dort moins bien, d'où l'intérêt là encore d'essayer de faire des siestes pour compenser, c'est ça, Brice Marot?
Alors, plus on avance en âge, malheureusement, c'est le lent déclin du sommeil lent profond lorsqu'on avance en âge. Je vous rappelle, alors, le sommeil lent profond, c'est 20% d'une nuit de 7-8 heures. Et sa part diminue, en particulier après 40 ans, commence à diminuer. Puis après, pour arriver presque à rien du tout lorsqu'on approche de 100 ans. Donc oui, la machine fonctionne moins bien. Le sommeil est moins récupérateur et plus fragmenté. Les rythmes veillent sommeil sont émoussés aussi. On sait bien que les personnes âgées vont aller se coucher plus tôt, se lever très tôt. Mmh. Alors, faire la sieste, là, je vous répondrai de deux manières. Si, au point de vue de la santé, on se porte bien, oui, pourquoi on peut absolument faire une sieste pas trop longue dans la journée. C'est une première chose. Après, là, c'est un cas très particulier où la sieste peut être, chez ces personnes âgées, un marqueur de dégradation de l'état de santé. Donc finalement, ces siestes sont très passives. Ils ne sont pas là. Les gens n'ont pas pensé « je vais rattraper le manque de sommeil par ce sommeil supplémentaire », mais c'est un état passif lié à l'état de fatigue générale.
D'accord, donc il faut faire attention pour pouvoir finalement faire la sieste de manière consciente, décidée, qu'on n'a pas assez dormi, j'ai à le reconnaître, et puis se mettre en état de faire la sieste, ce qui n'est pas facile pour tout le monde, aussi parce qu'enfant, on a parfois une idée négative de la sieste, hein. Ça peut être une punition, une contrainte, comment faire pour sortir de ça aussi?
Oui, alors, dans ce livre, ce que je prône, d'ailleurs, il y a même à la fin du livre un pense-sieste. Hein. Mm-hmm. C'est pour, selon ma dette de sommeil, quel type de sieste je dois faire. Et donc, tout ça nécessite donc de penser de faire ce sommeil récupérateur de sieste. Si j'ai dormi une heure de moins qu'habituellement, une sieste d'une vingtaine de minutes en début d'après-midi, ce qu'on appelle la power nap chez les anglo-saxons, même 15 minutes de sommeil, attention, parce qu'il faut compter le temps pour s'endormir. En moyenne une dizaine de minutes, et pour se réveiller.
Donc oui, c'est ça, parce que vous dites, les micro-siestes, vous n'y croyez pas trop. Enfin, c'est pas vraiment une sieste.
C'est pas que je n'y crois pas trop, c'est lorsqu'on est en dette de sommeil, mm-hmm. Dormir une à deux minutes va amener une relaxation mentale, un regain d'énergie, mais qui va vite se dissiper dans le temps. Alors, c'est toujours intéressant à faire, hein, c'est toujours ça de prix, mais lorsqu'il nous manque, comme je vous disais, 2, 3, 4 heures, 5 heures de sommeil, 6 heures dans la semaine, seul le sommeil va rembourser cette dette de sommeil. Donc dans ce cas-là, je prône, je vous disais, une sieste d'une 15-20 minutes power nap avec peu de sommeil en profond.
Ce qui veut dire une demi-heure en tout pour avoir
15-20
minutes.
Oui, 20-25 minutes, une demi-heure. Mm-hmm. Et si on veut avoir des effets un peu plus importants, ce que j'appellerais... Donc là, on parle de sieste énergisante. Hein, donc c'est, ça permettra de tenir les 2-3 heures qui suivent dans l'après-midi au point mm-hmm. de vue performance cognitive, vigilance, meilleure humeur. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin, je sens vraiment que je suis en dette chronique de sommeil. Allons vers une sieste de 30 minutes de sommeil, 20-30 minutes de sommeil, ce qui nécessite certes 40 minutes de disponibilité, ce qui n'est pas toujours évident. Mais là, je vais avoir un peu de sommeil lent profond. Et là, je vais rentrer plus ce que vous appeliez tout à l'heure, une sieste plus entre guillemets thérapeutique, où grâce à ce sommeil lent profond qui joue sur le métabolisme, sur les hormones, etc., on peut avoir des effets sur la douleur, sur le stress, sur l'immunité, des effets favorables, bien entendu.
Autour de la question pourquoi et comment faire la sieste, qu'elle soit énergisante ou thérapeutique, on continue de s'interroger juste après avoir écouté Stromae, qui lui n'a pas sommeil, sur RFI.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Tu pourras me dire tout ce que tu veux. Sous tes fous rires et tes grands airs, c'est pas la peine, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine. Je t'aime quand même, moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues, moi. Mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main, sinon à quoi on sert, nous? À part faire la fête, mec, je l'ai assez faite, moi. On se voit demain. Et si je comptais, je compterai pour toi. Je te compterai mes histoires et je compterai les moutons pour toi. Et si je comptais, je compterai pour toi. Je te compterai mes histoires et je compterai les moutons. Mais tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil.
Stromae sur RFI, tu n'as pas sommeil. Et c'est bien le souci, hein. On a toujours autre chose ou mieux à faire que dormir. Autour de la question pourquoi faire la sieste, le neuroscientifique que vous êtes, Brice Faro, a beau nous initier au pouvoir de la sieste, hein. Je rappelle le titre de votre livre, Sauvé par la sieste, petit somme et grande victoire sur la dette de sommeil. C'est pas vraiment entré dans les mentalités, en France en tout cas. Ce n'est pas bien vu, ce n'est pas vraiment organisé. Contrairement à d'autres pays, au Japon notamment, c'est... Il faut faire la sieste.
Oui, alors au Japon, j'ai une anecdote assez amusante à ce sujet. C'est les Japonais l'ont totalement intégré dans leur mode de fonctionnement, particulier au travail, à tel point que les personnes dans les grandes entreprises, les cadres qui ne font pas la sieste sont vus comme possiblement d'être des fainéants. Parce que
c'est eux les fainéants, voilà,
qui ne font pas la sieste et qui n'ont pas à récupérer du sommeil. Et on a même surpris des cadres supérieurs japonais à faire semblant de faire la sieste.
Ah, pour montrer qu'ils avaient tellement travaillé, qu'ils étaient très fatigués. Ouais.
Donc
c'est ça.
Alors c'est pas non plus, voilà, faut pas s'épuiser. Mais par exemple, les anglo-saxons, dans ce que j'appelais tout à l'heure la power nap, l'ont très bien compris. En France, les idées avancent, ça change quand même. On voit, bon, c'était très bien accepté dans toutes les professions à risque en termes de vigilance. Mmh. Hein, on fait souvent des conférences pour les pilotes d'avion, tous les gens qui conduisent.
Ah oui, là, vous êtes sollicité. Ouais.
Voilà, absolument.
Et pour les gens qui sont en horaire décalé, en horaire de nuit aussi.
Oui, oui, ça, c'est une vraie question de société, parce que si on prend les chiffres de la DARES, on est passé en une vingtaine d'années de 2,5 millions à 3,5 millions de personnes qui travaillent de manière permanente ou occasionnelle en horaire de nuit, avec la part des femmes qui a quasiment doublé. Mmh. Or, la question, c'est est-ce qu'on restreint ce travail de nuit aux fonctions, aux postes et aux travaux indispensables, hein, l'hôpital, la sécurité, les pompiers, voilà, ou on l'étend plus globalement. C'est un problème parce que notre horloge biologique est plastique, mais on ne peut pas se transformer en chouette. Et lorsqu'on regarde les travailleurs de nuit, à poste égal, ils dorment une heure de moins par 24 heures. Donc, je vous parlais tout à l'heure de tous les problèmes et pathologies qui peuvent s'en suivre. Et seuls les travailleurs de nuit qui s'adaptent bien sont ceux qui ont une stratégie de récupération à travers notamment des longues siestes. Un travailleur de nuit qui fonctionne bien fera toujours, on n'a pas besoin de leur apprendre, ils l'ont compris d'eux-mêmes, une sieste d'une heure et demie, cette fois une longue sieste, on ne l'a pas encore évoqué, vers 5-6 heures l'après-midi. Ils vont faire un cycle de sommeil entier où ils peuvent avoir 30-40 minutes de sommeil long profond. Ça, à mettre au regard de, dans une nuit normale, on a une centaine de minutes de sommeil long profond. Donc c'est vraiment toujours ça de prix, et ça leur permet d'être efficace à peu près 5 heures en termes de vigilance, de performance séances qui suivent. Et là, il y a une étude qui vient de sortir montrant que des infirmières qui font une sieste d'une trentaine de minutes à 4 heures du matin, donc ça c'est pour la suite de la nuit, pourraient être à peu près correctes dans leur travail. Enfin, correctes, elles sont correctes, mais au mieux, en termes de vigilance, de prise de décision, jusqu'à la fin de la nuit. Donc oui, la sieste est une stratégie, mais attention, le temps d'exposition au travail de nuit, passé 10 ans, les dégâts sur la santé sont malheureusement très présents.
Même quand on arrive à adopter ce genre de stratégie, qui ne sont pas évidentes, parce qu'il faut arriver à caser cette longue sieste, on n'en a pas parlé, mais vraiment, il y a des longues siestes qui sont vraiment thérapeutiques, qui permettent de récupérer véritablement, mais là où du coup, on en sort effectivement un peu vaseux, et donc il faut se réveiller. Enfin, c'est comme deux journées en une dans ces cas-là.
Oui, absolument. Alors, quand on fait une très longue sieste, il faut prévoir un temps pour sortir de cette sieste, et de lever cette inertie du sommeil. Alors, on peut utiliser de la luminothérapie, de la caféine, l'activité physique, tout ça. Et il faut en tout cas prévoir un moment. Par exemple, lorsqu'on travaille avec des urgentistes qui ont besoin d'être opérationnels immédiatement, c'est vrai qu'ils évitent ce type de sieste. Ils font des siestes plus courtes. Mais après, l'intérêt de ce type de longue sieste, c'est qu'on va tenir longtemps, surtout si on doit tenir toute une nuit, ou si par exemple j'ai dormi 2-3 heures la nuit d'avant et je dois encore travailler tard le soir. Là, certes, on ne va pas être en pleine forme tout de suite, mais on va avoir des effets à long terme plus importants.
D'accord, on peut adopter des stratégies.
Absolument, il faut avoir des stratégies de récupération. Absolument.
Jusqu'où et à quel point pouvons-nous adopter ces stratégies? Et surtout, jusqu'où et à quel point sommes-nous en dette de sommeil plus aujourd'hui qu'hier? C'est précisément la question que soulève Caroline Tourbe du mensuel Science et Vie.
Est-ce qu'on est vraiment actuellement en dette de sommeil? Et plus exactement, est-ce qu'on dort si mal que ça? Si on compare notre sommeil au sommeil de nos ancêtres pas si lointains, qui peut-être ne mangeaient pas forcément à leur faim, ou n'étaient pas en sécurité, ou n'avaient pas une literie qui leur permettait de bien dormir, est-ce qu'on dort si mal?
Votre réponse? Est-ce qu'on dort plus mal aujourd'hui qu'hier, et est-ce qu'on dort moins aujourd'hui qu'hier? C'est pas la même chose, hein?
Oui, oui. Alors, je vais vous répondre par des études scientifiques qui ont regardé, on a une trentaine d'années de recul. Alors, j'ai en tête une très grande étude américaine qui montrait, voilà, la conclusion était la suivante. La part des gens qui dorment moins de 6 heures en semaine a augmenté. Une autre étude suédoise, ils ont regardé le sommeil de femmes qu'ils ont suivi pendant 30 ans, montrait que sur une vingtaine d'années, entre 1990 et 2010, ces femmes suédoises avaient perdu une trentaine de minutes de sommeil. Alors, quels sont les nouveaux... Ah oui, et puis autre chose que je voudrais ajouter. Il y a par contre quelque chose qui devient de plus en plus présent, c'est ce que nous appelons un jet lag social. Absolument.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens vont moins dormir en semaine et vont avoir comme stratégie de récupérer le week-end. Mais le problème, lorsque la différence est très forte entre la semaine et le week-end, donc dans notre dernière étude, 15% des Français avaient ce jet lag social supérieur à 2 heures, c'est-à-dire que leur temps de sommeil moyen par 24 heures par le week-end était de supérieur à 2 heures que ce qu'ils dormaient
par
la semaine. Et donc en fait, on introduit un nouveau rythme chronobiologique, mais artificiel. Et c'est un jet lag, hein, c'est lorsque l'équivalent, lorsqu'on se déplace en avion. Et ça, la question, on commence à répondre. Moi, depuis longtemps, j'ai dit que je pense que tous les compartiments de l'organisme ne récupèrent pas pendant le week-end lorsqu'on utilise cette stratégie. Et là, des publications scientifiques commencent à arriver. Et on voit en effet, par exemple, pour la résistance à l'insuline, hein, je vous rappelle, résistance à l'insuline, c'est les prémices d'un diabète de type 2 qui est plus présent chez les courts dormeurs. Et bien, le lundi, le mardi, on récupère un peu le week-end, mais le lundi et mardi, on arrive à des niveaux qui sont quand même, qui redeviennent à nouveau pas bons.
Parmi les stratégies à adopter, dire je dors moins pendant la semaine et je récupère le week-end, je fais des siestes et la grasse matinée, c'est pas idéal. Vaut mieux penser 24 heures en fait,
voilà.
Par 24 heures, c'est
absolument.
Ça que vous dites.
C'est ça l'idée que je voudrais diffuser, c'est ça. Il vaut mieux récupérer le week-end que pas récupérer du tout,
bien entendu.
Mais essayez de ne pas attendre le week-end, sans compter que vous imaginez, vous arrivez à vendredi avec...
Épuisé.
Vous avez quasiment, si vous avez dormi une heure et demie de moins comme un tiers des Français, vous arrivez avec une nuit en moins de sommeil. Donc en termes d'accident, c'est dramatique. Donc essayez dès que c'est possible, je sais que c'est pas toujours évident, de compenser ce manque de sommeil auparavant.
Un de nos auditeurs à Dakar, il s'appelle Ismaël, dit « Mais est-ce que faire la sieste, c'est forcément dormir ?»
Alors, En tout cas, le livre tel que je l'ai pensé, c'est avec du sommeil. Mais bien entendu, se couper du monde extérieur, des stimuli extérieurs, y compris couper son téléphone portable parce que, et tous les tablettes, etc., permet certes d'avoir une relaxation mentale, un regain d'énergie. C'est intéressant, mais ça ne permet pas de rembourser la dette de sommeil. Et puis, on vous parle beaucoup des écrans, etc. C'est vrai que ça a un effet sur l'endormissement. Et puis, là, on vous parle de pollution lumineuse. Je sais qu'ici, beaucoup d'astrophysiciens qui sont reçus.
Qui nous ont alertés sur la pollution lumineuse.
Donc c'est un problème pour eux, mais c'est aussi un problème pour le sommeil. J'ai un collègue à qui on est associé à Stanford et qui a publié il n'y a pas longtemps. Il a pris des cartes de météo de l'armée américaine pour avoir très très précisément le niveau d'illumination de zones urbaines. Et après, il allait interroger, étudier les gens qui habitaient dans ces zones. Et les gens dont les quartiers étaient les plus éclairés étaient les gens qui avaient les plus courts temps de sommeil et un sommeil de moins bonne qualité.
Donc, il y a un lien là aussi. Hein.
Absolument.
Pollution lumineuse, pollution sonore, donc tout éteindre pour pouvoir la journée faire la sieste. Un de vos chapitres d'ailleurs s'intitule La sieste ou le réveil de la force. Alors comment réveiller la force et le siesteur qui sommeille peut-être en chacun de nous. Sieste mode d'emploi, c'est à suivre juste après cette question d'une youtubeuse de science, Viviane Lalande, qui vit au Québec et qui vous demande cela.
Alors moi, je me demande comment est-ce qu'on arrive à faire des siestes, parce que je suis dans une incapacité totale à faire des siestes, alors je veux bien des conseils.
Quel conseil pourriez-vous donner à Viviane Lalande et à tant d'autres qui n'arrivent pas à faire la sieste ?
Ah oui, alors bien sûr, c'est pas... Alors, sieste, c'est comme une pratique, il faut s'entraîner. Parce que surtout lorsqu'on est un peu en manque de sommeil, vous avez les niveaux de stress qui montent légèrement. Donc, stress, anxiété, c'est antinomique de pouvoir s'endormir. Donc, il faut... Alors, il y a des techniques de relaxation, de respiration, on peut essayer. Il faut s'entraîner. Il faut essayer, même si je n'ai pas dormi, c'est pas grave. Tous les jours, par exemple, à 14h30, je m'accorde une vingtaine de minutes de calme et possiblement de sommeil, parce que l'horloge biologique est plastique, hein. On peut travailler de nuit dans une certaine limite, donc il y a une plasticité de l'horloge biologique. Et donc on peut habituer cette horloge biologique à ce petit somme de début d'après-midi, et en réponse, pas la première fois, hein, au bout d'un certain temps, elle peut vous envoyer des signaux positifs, peut baisser peut-être légèrement votre température pour favoriser cette sieste. Et deuxième chose, évidemment, la capacité de s'endormir en sieste dépend de votre dette de sommeil. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des portes de sommeil. C'est-à-dire toutes les 1h30, 2h, vous avez un moment... Alors dans les couples, on le voit très bien, il y en a un qui a envie de s'endormir et l'autre qui a envie de parler de quelque chose et le soir. Mais sinon, ces portes de sommeil, hein, on pense que ça vient du temps où l'homme préhistorique ne dormait qu'une heure et demie, 2h, puis devait se réveiller à nouveau parce qu'il n'était pas protégé de ses prédateurs. Donc ces portes de sommeil sont là toutes les 1h30, 2h. Les plus fortes sont au milieu de la nuit, à 4h du matin, et en début d'après-midi, ensuite, une porte de sommeil secondaire. Mais comme elles sont là toutes les 2h, on les perçoit d'autant mieux qu'on est en manque de sommeil. Donc, écoutons notre corps, donc typiquement bâillement, raideur de la nuque, problème d'acuité visuelle, on voit mal, on regarde à nouveau quelque chose, petite baisse, petit frisson. Donc repérons ces portes, on s'endormira d'autant plus facilement en sommeil de sieste et il sera d'autant plus efficace.
Donc ça se travaille en fait, le sommeil de sieste, c'est pas du tout la marque de la fainéantise ou de la paresse.
Absolument, c'est pas donné à tout le monde au début. Alors après, il y a une part héréditaire aussi. Alors il y a une étude espagnole qui montrait qu'elle était à peu près de 50%, donc la capacité à faire la sieste et sa durée, bon, voilà, mais peu importe, cela se travaille et ça nécessite un entraînement et je pense qu'on peut en tirer de nombreux bénéfices.
Autour de la question pourquoi travailler à faire la sieste, réponse funky depuis le Togo, de Peter Solo et son groupe Vodou Game, Tata Fatigué. We'll be right back.
vous offrir un petit chocolat.
Tata fatigué, mais oui, Tata est fatigué. Extrait du dernier album du Togolais Peter Solo et de son groupe Vodou Game sur RFI. Nous sommes en compagnie du neuroscientifique Brice Faro qui vient de publier Sauvé par la sieste, Petit somme et grande victoire sur la dette de sommeil. Autour de la question pourquoi faire la sieste quand on est fatigué, quand on est en manque de sommeil, mais pas seulement, c'est l'éclairage d'un chercheur qui était récemment notre invité, Christian Lévesque, spécialiste de l'eau, des rivières et des poissons d'Afrique. On l'écoute.
C'est une activité que je pratique régulièrement, la sieste. Mais la sieste, pour moi, c'est une micro-sieste. C'est de l'ordre de 5 minutes, 10 minutes finalement d'assoupissement, de déconnexion en quelque sorte. Et après, je repars avec beaucoup d'enthousiasme pour reprendre le cours de ma vie. Mais j'ai besoin, physiologiquement besoin, d'avoir 5 ou 10 minutes de décrochement après le repas en particulier.
Et vous arrivez à faire ça n'importe où ou...
Ah, je dors même dans une Land Rover qui roule en brousse. Oui.
Il a tout compris, Christian Lévesque, Brice Faro.
Oui, oui. Alors, je vous ai déjà parlé de la vigilance, l'humeur, les performances, mais là, vous me dites que c'est un chercheur, donc je vais penser créativité et même des courtes siestes. Le fait d'être dans un état entre l'éveil et le sommeil va permettre d'avoir ce qu'on appelle des hallucinations, des visions, des parce que pendant le sommeil, lorsqu'on dort, lorsqu'on n'est plus stimulé par l'environnement extérieur, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des hyper-associations mnésiques, c'est-à-dire qu'on va mélanger le problème actuel dont on cherche la solution avec des images, des expériences du passé. Et là, Eureka, sortir de ces petites siestes de 5 minutes, peut-être il avance plus vite dans son domaine de recherche et il l'utilise. En tout cas, beaucoup de scientifiques le font, même s'ils vous le diront peut-être qu'à la fin de leur carrière, mais absolument.
Oui, beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs disent que des découvertes sont des fois produites pendant leur sommeil. On sait bien nous-mêmes, nous tous, pendant les sommeils de sieste, parfois, il y a effectivement des hallucinations, des moments où on est entre les deux. C'est très important pour la créativité, oui. Le sommeil et ces sommeils de sieste.
Oui, alors par exemple, prenons un exemple qui a souvent cité, c'est Auguste Kekulé, un chimiste à la fin du 19e siècle, qui, à la sortie assoupi dans son fauteuil, vous raconte qu'il a vu l'ouroboros, qui est le serpent de la mythologie grecque ou en Amérique du Sud, qui se mord la queue, et c'est de là qu'il a eu le déclic en disant « Ah, le benzène, en fait, j'en avais pas idée jusqu'à maintenant de ça pouvait être le cas, pouvait être 6 atomes de carbone formés en cycle, alors qu'avant c'était inimaginable. » Donc voilà un exemple type de créativité qui peut être produite par le sommeil.
En exergue de votre livre, d'ailleurs, Brice, vous citez le philosophe Alain, « Sachons dormir, nous serons veillés ».
Oui, « Sachons siester, nous serons veillés », je rajouterais même. Oui, absolument, c'est vraiment notre intimité et c'est un moment essentiel au développement de notre intellect, je dis pour la mémoire, pour éliminer des informations, pour... ça permet aussi d'être moins fragile émotionnellement. Tout ça est à préserver. Donc le sommeil, c'est un tiers de notre vie et c'est quelque chose auquel il faut prendre conscience de son importance et y prendre soin.
En prendre soin, nos sociétés l'ont quand même un peu oublié. On est dans des sociétés de la performance, ou alors peut-être moins aujourd'hui qu'hier, mais on a oublié à quel point c'était important le sommeil. Vous le disiez au début de cette émission, c'est notre variable d'ajustement. Si on a trop de choses à faire, on dormira moins. Au fond, est-ce qu'on l'a oublié? Est-ce qu'on ne l'a pas compris? Est-ce qu'il faut maintenant le redécouvrir? L'art de faire la sieste?
Possiblement, oui, se le réapproprier, parce que je me rends compte, en parlant de ce livre, que nombre de personnes n'ont pas idée de tous. Ils pensent le sommeil, je récupère la fonction purement récupératrice du sommeil, on se régénère. Et il y a tellement d'autres. On se régénère, mais par exemple, est-ce que vous saviez que pendant le sommeil, il y a un système de nettoyage du cerveau qui se met en route? Donc c'est indispensable pour permettre de nettoyer tous les déchets toxiques de la journée.
Nettoyage du cerveau.
Absolument.
Pendant quoi? Pendant le sommeil profond?
Alors, pour l'instant, ça a été fait chez des souris, on attend de voir chez l'homme, mais donc c'était pendant le sommeil profond. Donc on voyait l'espace entre les cellules du cerveau un peu augmenté pour permettre d'avoir un débit plus important du liquide interstitiel. Liquide interstitiel, pour schématiser, c'est l'équivalent du sang et des déchets qui sont évacués dans ce liquide dans le cerveau, qui est évacué plus rapidement. Donc déjà, rien que pour ça, en dehors de la créativité, de l'humeur, de tous les risques sur la santé qu'amène le manque de sommeil, hein, pas pathologies cardiovasculaires, la sieste, par exemple, protège une sieste d'une trentaine de minutes dans la semaine, en début d'après-midi, protège et est protecteur vis-à-vis du risque cardiovasculaire. On prend moins de poids. 5 nuits de 5 heures, pour vous donner une image, je dors 5 nuits de 5 heures, étude faite chez des jeunes en bonne santé, je prends 0,80 g de poids, indépendamment du fait, j'ai plus mangé, parce que le fait de ne pas dormir dérégule nos systèmes de régulation hormonale liés au glucose et à l'appétit, par exemple.
Donc de l'intérêt de redécouvrir la sieste, c'est aussi aujourd'hui, ça pourrait le devenir en tout cas, si on s'en rendait compte, un enjeu de santé publique mondiale.
Absolument. Et donc, le Santé publique France, récemment, donc justement suite à notre dernière enquête sur le sommeil des Français, a commencé à amener l'idée que le sommeil pourrait être un outil de prévention de l'apparition de tout un nombre de maladies, que ce soit cardiovasculaires, psychiatriques ou autres.
Et en plus, vous ne nous culpabilisez pas, parce que quand on se dit « il faut dormir », évidemment, on n'arrive pas à dormir. Donc là, ce n'est pas « il faut dormir », c'est « ça fait du bien », on peut s'y entraîner, la sieste ou l'art de retrouver et d'entretenir notre vitalité. Donc merci infiniment, Brice Farot, d'être venu en direct partager tous les bienfaits de la sieste, nous décomplexer en même temps, avec cet ouvrage inspirant à mettre entre toutes les mains qui s'intitule donc « Sauvé par la sieste, petit somme et grande victoire sur la dette de sommeil ». C'est pas aux éditions Actes Sud, et il y a même à la fin un petit chapitre très pratique pour justement s'entraîner à faire de super siestes. Vous en faites, vous, Brice Farot ?
Ah oui, oui, c'est indispensable lorsque je suis en manque de sommeil, absolument. Merci beaucoup à vous.
Merci. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et votre curiosité sans cesse renouvelée. Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. On se retrouve lundi prochain, chers amis auditeurs, en compagnie du paléo-anthropologue et médecin légiste Philippe Charlier, qui fait parler les morts célèbres ou anonymes, mais aussi les squelettes, momies et fétiches des collections muséales. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles dans quelques instants sur RFI. Ce sera l'heure des informations.
C'est pas du vent.